ville-monde.
Là-bas, une étoile pétille, raconte un poète malgache. Après Valparaiso, ville poésie, et le Pacifique, traversée vers l'océan Indien et une île-monde, Madagascar, voyage dans sa capitale, passeport pour Antananarivo, Tananarive. Chant du départ, verset de l'aventure, comme l'écrivait Rabbe Mananjara, autre poète de là-bas. Ville-monde, Tananarive, bon voyage sur France Culture sans frontières.
Antananarivo, ville, monde. Tananarive, des sauterelles gardent le tombeau.
Andrurine.
Un poème sur l'hiver. C'est un poème assez triste dans lequel il parle de l'été, de l'hiver, du temps qui passe. Il pleut à torrents, il pleut sans arrêt. Mon esprit commence à être lourd et mes yeux sont aveugles. Dans ce village, c'est du silence tout le temps, un silence lourd, tous les jours, tous les jours. Un soleil d'hiver n'apporte pas de chaleur et ce soleil-là s'en va tous les jours, tous les jours. Et il a oublié la suite.
Pardon. Monsieur, comment naissent les poésies?
Quand il y a
quelque chose de triste ou de mélancolique qui vient, la poésie vient à ce moment-là. C'est quelque chose qui vient tout seul. Dans sa famille, ils sont de tradition de chanteurs et de gens de théâtre. Et donc, il a baigné dans cela.
Ils
ont été 10 qui ont toujours baigné là-dedans. Et son grand-père était un musicien du palais.
Et qui de vos enfants va perpétuer ces chants?
Jamzolo, il te confie une anzare. Si tu fallais affiquer le kizenga, boulakiel, vous y retournez.
Parmi ses enfants, non, il ne voit pas qui a hérité de son nom, mais peut-être un de ses petits enfants qui a un an actuellement.
Si bravo, ma énusan, fio kiro, demandindi, mira ira.
Dès qu'il entend de la musique, il danse et il chante.
Pour qui sont les poèmes?
C'est pas pour quelqu'un de particulier, c'est pour tout l'environnement, c'est pour l'univers. C'est émouvant parce que, en fait, c'est un très grand poète. Et là, je lui ai demandé de me donner tous ses poèmes pour que je les traduise. Et en principe, je crois que j'ai trouvé les moyens de les faire éditer.
Michel Rakotoson, c'est surprenant ou pas que ce jardinier poète soit là, près de vous, sur cette colline?
Non, c'est un très très grand monsieur. Ragré, Grégoire, R-A, l'article est gré. Ragré. Du coup, j'ai la chance extraordinaire, le luxe d'avoir un jardinier poète.
Une chose étrange ici, c'est que l'on parle des 12 collines, alors que si l'on regarde tout autour de nous, nous voyons plutôt des centaines de collines. Pourquoi ces 12 collines?
Les 12 collines sont les collines sacrées, que le roi Jinapunmir n'a désigné comme étant sacrées. Bon, il y a Antung, il y a Ambuimang, la colline Bœuf, c'est celle où l'on est ici. Ambuimang et Ambuchabib sont les deux premières collines sacrées. Ambuchabib est juste à côté. Ce sont les collines de la genèse du royaume. La genèse du royaume Mirna vient d'ici. En fait, ici, sur toutes ces collines appartiennent à quelqu'un, à un clan, à une famille, à quelqu'un. Et chaque colline a une histoire. Il y a toujours des lieux, des repères, des mégalithes, des portes, des grosses pierres, des ruines, où on sait qu'il y a eu un village, il y a eu une histoire. Et il y a encore des paysans qui connaissent tout ça. Tout le monde sait qui est à qui et quelle est l'histoire de ces collines. Et en fait, la plupart des collines que l'on voit ici, il y a des dieux. Il y a Anjitsfung, il y a Ambatun Radam, qui est le roi Radam est devenu un dieu, il y a Kalou, il y a au moins 5-6 endroits sacrés tout autour de nous, sur les collines.
Des montagnes ou des collines? On hésite. Hein,
on hésite.
Ouais. C'est un paysage un peu. Elles sont légèrement froissées, on a l'impression qu'elles sont collées les unes aux autres avec la perspective, et du coup, ce sont. On pourrait presque croire à une sorte de théâtre un petit peu d'ombre, comme ça, avec des. Les collines.
C'est peut-être pour ça que les Malgaches disent qu'il y a plein d'ombres par ici. Parce qu'en fait, les fantômes, les Malgaches les appellent les ombres. Et ma foi, moi je veux bien les croire. Hein. J'ai presque envie de dire que dans ma maison aussi, il y a une ombre. On va aller là-bas. Ouais.
Il faut connaître pour voir des chemins comme ça sur la. Là, je ne vois pas. Moi.
C'est des tout petits signes qu'il faut savoir interpréter. Là, il y a quelqu'un qui est passé. Là, il y a une tombe. Là, il y a... Et en fait, c'est un peuple de montagnards marcheurs qui marchent beaucoup. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit dans les collines tout des tas de chemins. Il y a des tas de petits chemins qui vont d'un village à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'une tombe à l'autre, même de maison en maison. Et les gens se repèrent comme ça. Et souvent, quand on va dans une colline... On ne repère pas le chemin, et puis brusquement on se retrouve devant un paysan, on se demande qu'est-ce qu'il fait là. En fait, il y avait un petit chemin que lui connaît et que vous n'avez pas vu. Et c'est vraiment des signes imperceptibles. Et c'est pour ça que la culture Mirn est une culture du silence, du non-dit, du demi... comment on dit ça ? Du demi-sens. En fait, je vous donne une conversation en malgache. Taïjij. Où est-ce qu'il est allé? Ouais, il est parti. Il est parti où? Il est parti par là. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y a un monument ici qui est extraordinaire. Je vais vous le montrer là. C'est un monument dont une partie doit dater de 1500 ou 1600, paraît-il. Et en fait, ce sont des pierres commémoratives qui, d'après un copain archéologue, seraient le mémorial qui indique que dans cet endroit, dans ce jardin, il y aurait un ancêtre royal ou princier. J'ai fouillé, et cet ancêtre serait le premier habitant d'Ambuimang. Il y a 8 pierres rondes, 7 femmes et un homme. L'homme est là. C'est un pénis circoncis, on le voit bien. Les 3 pierres plus rugueuses, plus brutes, au milieu, tiennent la terre. Et là, il y a la pierre de maternité sur laquelle les femmes venaient autrefois et faisaient leurs offrandes, des bonbons, du miel, de l'huile. Elles tournaient comme ça, parce que le geste est là, on tourne le pouce. Et on le creuse. Et là, quand elles ont envie d'avoir des enfants, elles viennent et puis elles tournent.
Elle tourne comme ça.
Elles ont dû être nombreuses pour venir là.
Et cette pierre est dans votre jardin, Michel Rakotos.
Et cette pierre est dans le jardin.
Sur une colline bien particulière.
Sur la colline sacrée d'Ambuimang. Ambuimang, c'est vraiment la colline sacrée où on voit toutes les traces des religions anciennes, des croyances. Il y a encore pas mal de cultes que d'aucuns disent ce sont des cultes païens, qui sont en fait des cultes anciens. Il y a un lieu de culte qui est le lieu de culte de l'astrologue d'Anjanapun Mirn.
L'astrologue qui pouvait à la fois lire les zodiaques, dire
voilà,
des
disait les présages. Et les gens viennent de très très loin. Il y a des pèlerinages. On dit toujours que les Malgaches sont chrétiens. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de musulmans. Il y a des chrétiens. une majorité peut-être, en tout cas sur le haut plateau, et il y a énormément d'animistes. La religion traditionnelle est extrêmement suivie, mais ça, on n'en parle jamais. D'ici, moi, je vois les processions de pèlerins qui montent là-haut les jours de pleine lune, je les entends la nuit. Les possédés qui chantent, qui appellent les dieux. Et en fait, les dieux, ce sont leurs ancêtres. Les ancêtres des Malgaches avant qui deviennent des dieux. Et on les entend. Il m'a dit que... C'est assez obsédant. Il y a de l'accordéon. Et toute la nuit, on entend le son de l'accordéon et les possédés qui disent « Oui, j'ai joué. Il m'a dit que... »
Ça veut dire d'être d'ici, de ces collines?
Je sais pas. C'est une chance incroyable et ça rend assez mystique. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui est mort, les veillées mortuaires, tout le village vient, ramène 1 kilo de riz, on met tout le riz ensemble et on chante toute la nuit. Et le matin, tout le monde va ensemble enterrer le mort. Et il chante et c'est superbement beau, mais j'avoue que ici ça, c'est assez poignant. C'était, ben on a de la chance, c'est elle la possédée.
Une femme vient presque de s'enfuir.
La femme qui est passée là, c'est la possédée qui garde le lieu de culte qui est là. Le lieu est enterré, un des premiers rois de l'Imerne. Alors, faites attention parce que le rocher, il faut savoir que c'est une entrée. Il faudra entrer de biais. La prêtresse a accepté que je puisse passer.
Nous nous faufilons entre les parois d'un rocher. C'est du granit ? Du granit.
Bon, là, vous avez la tombe du roi. Assez long. Et là, je dois tenir le pouce comme ça, l'index comme ça.
Pourquoi vous tenez votre index de cette manière-là, c'est-à-dire en le recroquevillant ?
Je le recroqueville parce qu'on m'a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Dans les croyances malgaches, on n'a pas le droit de désigner quelqu'un de l'index comme ça, ça ne se fait pas. Donc du coup, on m'a dit ça ici, je fais comme tout le monde.
Il y a quelqu'un.
Il y a surtout un ancêtre. Et l'ancêtre, il faut vraiment... Le signe de respect de l'ancêtre, c'est ne jamais le désigner de l'index. Là, vous voyez l'entrée, le temple, le petit temple. Et voici Madame Céleste qui est la possédée. Mara Beno Céleste.
Salam.
C'est ici et le tombeau sacré du premier roi de d'Ambuimang, Andestakatandrin. Il a régné de 1630 à 1650. Elle a été désignée par les ancêtres pour être prêtresse ici. Elle n'a pas le droit de quitter ce lieu parce qu'elle a été désignée pour garder ce lieu. Donc elle est là en permanence. Elle n'a aucune peur des ancêtres qui sont là puisque c'est grâce à eux, à cause d'eux qu'elle est là. C'est femme teny aminoi de mamal teny no maverina teny oui
mamal teny am teny izy
rehefa misy le tonga manasina de mamal
tonga manasina zany.
Quand il y a des gens qui viennent prier ou demander des offrandes, une imploration, elle parle au nom des ancêtres, enfin sa bouche parle au nom des ancêtres.
Ianara, voalohateny voalohana azy dia tsy maintsy miatsy mivavaka amin'ny talahona ty ianao Andriamanitra, ty ianao Andriamanitra nahatongotra nahatany ny fanazavaboary rehetra. Eny tompo rany tatanonao ka vimbininao rety taranaka sinofo dimy. Tonga eto anatrehanao dadabe Andriazy Takadahamasina, ao anao ny fara, ao anao Ratsorabolamena, ao anao Andriamasina lehibe, ao anao Andriazy Toaina sy ato amin'ny fitomendalana amin'izany. Tonga eto ny taranaka angataka tojano angataka rahambavaka tonga eto anatrehanareo. Raha tonga eto arizy dadabe sy ny ambe masina anazy amin'ny voninahitra anareo ray aman-dreny manakasina. Ary ny zavatra rehetra dia angatahanay kosa ny fahasalamana ny volan'ny tiareny. Natongoavany tokoa amin'izao toerana masiny izao.
Zahanar et les ancêtres vous bénissent. Zahanar ou le Seigneur parfumé. Toute politesse a son importance sur le ciel des hauts plateaux. D'ici se dessine, enserrée par ses dentelles de collines et de rizières, la capitale, Tananarive ou Antananarivo. Notre bénédiction en poche, nous allons à la rencontre de Jean-Pierre Dominichini. L'académicien a pris racine sous le Ziziphus jujuba.
Vous voyez, là, quand je fais des plantations, ça marche pas. Voilà ça, ça, ça. Ce sont des baobabs.
Là, ce sont des petites pousses qui font quelques centimètres.
Oui, ça, c'est à partir des grains. Vous savez, les baobabs donnent de gros fruits, comme ça. Et c'est... Bon, l'intérieur se mange, mais il y a des grains. Et c'est des baobabs, il en faut aussi, hein. Alors là, on a mis quelques érables qui poussent très bien. Mais sinon, ce sont de différents types d'arbres malgaches, des arbres du sud aussi, de ce que l'on voit au pays en Tanjou, ces arbres pieuvres, etc. On plante aussi des palissandres, des ébéniers.
Vous pouvez dater certaines migrations à Madagascar en fonction des plantes que vous trouvez dans certaines
Mais
zones.
Oui, si vous voulez, par exemple, et puis des contextes de migration. Ce que l'on a pu dater de façon sûre, c'est qu'il y avait des gens ici au 4e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé des pollens de cannabis. Or, le chanvre est une plante essentielle à cette époque pour faire des... C'est cultivé en Chine depuis fort longtemps. La grande dame qui est à l'origine des empereurs chinois, Dame Tsin, a avalé un oiseau qui passait, elle a avalé l'œuf et ça a donné naissance à la dynastie. Bon, mais quand elle a avalé l'œuf, elle était en train de filer du chanvre. Bon, alors, ça remonte. Et le chanvre est utilisé pour faire des vêtements, pour faire des cordages. C'est important pour la marine à voile. Or, à cette époque-là, les seuls navigateurs en haute mer... Ce sont des Austronésiens, ce sont des gens qui viennent de Formose et qui sont répandus vers les Philippines, vers l'Asie du Sud-Est et vers tout le Pacifique. Alors quand vous lisez des choses sur Madagascar, ils sont venus par cabotage en suivant les côtes de l'Inde, de l'Arabie, de l'Afrique. Ils y ont pris femme puis ils sont arrivés à Madagascar, ce qui fait qu'ici on a des blancs et des noirs. Non, donc vous aviez des gens ici au 4e siècle, ça ne peut être que des gens d'Asie du Sud-Est, vous savez. Attendez, je voulais peut-être vous montrer quelques petites choses à l'intérieur. Il n'y en a pas beaucoup, on en a mis beaucoup ailleurs. Oui, alors qu'est-ce que je vais vous montrer ici?
Nous sommes dans votre salon. Au milieu, là, il y a ce que moi j'appellerais un coffre, mais vous,
oui?
Jean-Pierre Dominichini, vous ne l'appellerez pas, peut-être pas coffre.
Ben si, c'est un coffre, c'est un coffre. Quand on veut traduire, il faut traduire, c'est un coffre. Alors si vous parlez en milieu malgache, on vous dira, ben oui, vat, comme là-bas. Bon, mais ce genre de coffre a un nom particulier, Jujuvuka. Un nom qui n'est pas dans les dictionnaires. Hein. Ça a été fait faire par un monsieur de la forêt, un puissant, fin 18e siècle. Hein. Vous voyez, c'est un palissandre. Il avait peut-être cette taille-là. Il montait comme ça. Ça, c'est monoxyle. Tout ça, ça a été retiré, ça a été creusé ici. Et ensuite, ça a été poli et sculpté. Rien n'est rapporté. Voilà. Alors ça, il y en a des plus petits que celui-là.
Vous ouvrez votre coffre et là on aperçoit des arbres généalogiques.
Oui.
Pourquoi ? Ça a beaucoup d'importance ici, ces arbres ?
Ah ben les arbres généalogiques, c'est la seule façon de vivre ici. Bon, alors ça c'est des arbres généalogiques de la famille des proches, mais enfin... Quand on discute avec des Européens, c'est arrivé souvent, ils disent, mais enfin, il n'y avait pas d'état civil autrefois, comment est-ce qu'on peut savoir ? Or, on sait. D'abord, il y a la mémoire, et d'autre part, il y a une forme d'état civil qui est dans les tombeaux. Mais si nous n'avons pas de château, il y a Madagascar, nous avons des tombeaux. Et c'est ce qui différencie, parce que les châteaux, d'abord, ils peuvent être abandonnés, tomber en ruine. Ils peuvent être vendus. Alors qu'ici, les tombeaux, ça reste. Leurs occupants, ils sont là de façon définitive. On peut découvrir au moment de son décès quel était le statut traditionnel de la personne. Sauf où on se renseigne, c'est pour un mariage.
Elles sont enroulées, ces généalogies-là que vous avez dans votre coffre, elles sont enroulées.
C'est, vous voyez, il y a 5-6 rouleaux, là, 7-8 rouleaux.
Pourquoi ces documents que vous avez là précieusement dans ce coffre taillé dans du bois brut sont-ils toujours aussi importants ?
Je dirais que ce sont des choses qui permettent de comprendre ce qui se passe. Vous voyez, si l'on voit le président de la République aujourd'hui, M. R. Ratsanarmapian, est le descendant de rois ici en Imerne avant le XVIe siècle. Vous avez même comme ça, voyez. Alors ça, c'est les descendants depuis le roi Nchemashnavan, fin 17e, début 18e siècle.
Mais si on parle d'aujourd'hui, Jean-Pierre Dominichini, l'histoire officielle malgache, elle a toujours maille à partir avec la fabrication de ses généalogies, surtout l'oligarchie. Et si on observe la transition de l'histoire orale à celle écrite peu de temps après la publication de la Bible en 1835, puis l'ouvrage sur les traductions locales du révérend Père Calais, qui est publié avant d'être censuré, quel est l'objectif des pères catholiques et des missionnaires protestants, si ce n'est d'influencer, voire d'intervenir dans le champ politique, bien avant Gallieni, les massacres de la colonisation qui provoquent près de 700 000 morts?
Peut-être le faisait-il, comment dire, pour comprendre. Mais le but des pères catholiques ou des missionnaires protestants, c'était la conversion de la classe dirigeante, la conversion du souverain. Et est arrivé Gallieni, et la colonisation, disons. Il exile la reine à La Réunion, la reine Anavan III. C'est pas à l'honneur de la France et de la parole française, tout ça. Parce que quand l'armée française arrive à Tananarive, le général Voiron a un traité de protectorat que la reine signe sans discussion. Et au mois de juillet de l'année suivante, la Chambre des députés décide d'annexer Madagascar, donc d'en faire une colonie, c'est plus un protectorat. En février 97, Gallieni exile la reine Rana III à La Réunion. La reine, il l'a fait prévenir par un officier. Homme horrible par ailleurs parce qu'il a fait à l'époque que l'on appelle la pacification. Bon, c'était vraiment un officier colonial. Les sauvages ne méritaient même pas de vivre. Et elle tombe à ses genoux, elle embrasse ses genoux, elle dit, elle veut rester, elle ne veut pas partir. Bon, elle était obligée de partir à 4h du matin. Et Gallieni voulait qu'elle parte à 4h du matin pour que personne ne voie le départ, parce qu'il craignait un mouvement populaire.
Nous sommes le dimanche 28 février 1897. La nuit est noire, sans lune. Tananarive sommeille. Pourtant, non loin de la grande ville endormie, dans le palais royal de Rova, c'est l'effervescence. Tout à l'heure, à la nuit tombée, les soldats français ont pénétré dans la résidence de la reine. Ils lui ont dit qu'il fallait partir. Partir. Et tout de suite. Un peu l'écart, Ranavalo ne cesse de pleurer. Venez, Majesté, il nous faut aller maintenant. Ce sont les ordres, dit le lieutenant Durand, chargé de la conduire jusqu'à Tamatave. Ranavalo regarde pour la dernière fois le palais dans lequel elle a vécu ses 13 dernières années, et puis elle soupire longuement, sèche ses larmes avec son grand mouchoir, et elle suit le lieutenant français. Dans la cour, une chaise à porteurs l'attend, qui n'a ni le luxe ni le confort d'un filanzane royal. En début du cortège, un porte-lanterne guide les bourgeannes qui conduisent Ranavalo. Derrière eux, 700 à 800 hommes, porteurs, escortes, suivent en silence. Les lourdes malles de la reine sont fixées sur des bambous. Le long convoi s'ébranle, sans un bruit, en direction de la campagne toute proche, au-delà des collines. Tananarive, la ville aux 1000 villages, disparaît bientôt dans la nuit.
Donc, elle arrive jusqu'à Tamatave, transportée par bateau. Puis au bout d'un certain temps, c'est l'époque de Fashoda, en Afrique, où il y a eu ce grand conflit entre la France et l'Angleterre. L'Angleterre voulant avoir des possessions de l'Égypte jusqu'au Cap, et la France du Sénégal jusqu'à Djibouti. C'était la grande époque où il fallait faire des chemins de fer. C'était... Il y avait un problème de construction de chemins de fer, de métallurgie ou autre. Et Gallieni a peur que les Anglais ne débarquent à la Réunion, ne prennent la reine et ne la rapportent ici. Donc il l'a fait exiler à Alger.
C'est la
dernière reine. Mais quand elle a circulé en France, quand elle était au Mont-Saint-Michel, sur les affiches de la mère Poulard, là, elle signe Ranavalo. Reine de Madagascar, privée de son royaume. Mais elle est toujours reine de Madagascar, elle n'a jamais abdiqué.
L'île Rouge, Madagascar, avec sa capitale bouillante, où viennent s'achoper et se confondre 18 ethnies, des castes, des seigneurs, d'éternels paysans, d'anciens esclaves, une hiérarchie mobile, une capitale avec ses 1000 façons d'être illégitime, mais avec une unique voie étroite vers une authentique respectabilité. Empruntons le chemin serpentin jusqu'à la haute ville. Longtemps, un interdit empêchait le Kidam de s'approcher des hautes sphères. Nous y voilà.
Il y a une rue qui monte donc du centre-ville pour venir au Rouf, au Palais Royal. On passe devant le jardin d'Andoual, qui était l'ancien lieu pour où, lorsque le roi avait quelque chose annoncé à la ville, il descendait là.
Johari Ravolson, auteur.
Et puis à partir de là, c'est la haute ville. On passe devant l'ancien palais du Premier ministre, et là, on est à côté du palais de la justice royale ancien.
On rendait
justice à l'intérieur. En toute transparence, vous l'avez vu, il n'y a pas de mur. Mais on n'en fait plus de ce genre maintenant. Hein. Malheureusement. Maintenant, on rend la justice dans les secrets des cabinets. Enfin, on rend l'injustice dans les secrets des cabinets. Alors ça, c'est le chemin des étrangers. Il y a une porte un peu plus bas, là. Là, vous voyez donc le côté est d'un Tananarive. L'eau qui alimente Antananarive vient des montagnes au fond, là-bas. Ah, il y a des canalisations en plein air chez nous. Alors, ça sent qu'on est sur le côté est, hein, parce que c'est fin d'après-midi. On est à l'abri du soleil. C'est un peu frisque. C'est très très construit, hein. Mais il faut imaginer au moment où cette porte des étrangers fonctionnait. Et donc c'était le ministère des Affaires étrangères qui était à la porte, qui accueillait les gens. En fait, la ville, c'était ça.
La ville, c'était la cité royale.
Voilà, oui, c'était la cité royale qui s'étendait peu à peu vers le bas et maintenant vers les autres collines.
On voit des gens courir devant nous, dévaler la pente.
Oui, Antananarive est tout en pente et en escalier, hein, donc les Malgaches, on est habitués à ça. Et c'est pour ça que je vous invite à marcher dans ces petites ruelles et dans les escaliers, parce qu'ici, on est tranquille.
Mais on voit les gens s'activer, courir, dévaler les rues, comme si, finalement, on croise peu de personnes à Longuy, tranquille. Il y a les gens courent, un monsieur vient passer devant nous avec une petite hache sur le dos. Ouais. Si un enfant dort à la fenêtre.
Oui, parce qu'il fait jour. Rappelez-vous, vous êtes dans une grande ville, une capitale, mais il y a peut-être 30% des gens qui ont l'électricité. Et je ne sais pas le chiffre exact, mais pas beaucoup. Et tant qu'il fait jour, on s'active, on fait ce qu'il y a à faire. Et les enfants courent dans ces rues et dans ces escaliers. Et voilà, donc cette fameuse porte des étrangers, c'est des blocs de pierre avec une pierre circulaire qui servait vraiment de porte et qu'on bascule pour ouvrir le matin et pour fermer le soir. Alors, on l'appelle la porte des étrangers puisque c'est les étrangers venaient de l'Est. Et c'est la seule qui a une toiture. Le toit, apparemment, a subi le dernier cyclone. Il a un peu disparu. J'espère qu'ils vont le remettre bientôt. Mais donc, à l'extérieur, c'était des fossés auparavant. Et on arrivait par là.
Aujourd'hui, tout le monde passe par cette porte.
Oui, tout le monde passe. Il n'y a pas de gardien de porte. Tout le monde passe. Ça n'indique aucune frontière.
Les voies de circulation semblent un petit peu atemporelles. Ici, on voit donc ces routes pavées, ces escaliers.
Ben, je crois que c'est de l'époque de l'ancien temps, hein, de l'époque royale en tout cas, du moins fin 19e. C'est par là qu'on portait le roi sur son filanzane. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Je crois que les pavés ont été faits lorsqu'il y a eu des calèches avec les chevaux du roi. Et puis après, pour les militaires.
On voit parfois des hommes tenir des enfants presque nouveau-nés dans leurs bras. Les tout-petits sont souvent portés, sortis, promenés.
C'est vrai, ou plutôt ils suivent le quotidien de toute la famille, des grandes personnes.
Christiane Ramansoa, metteur en scène.
On ne les sort pas, mais c'est la famille qui soit sort, soit a besoin de faire quelque chose. Il y a l'enfant, on ne laisse pas l'enfant, on le porte avec soi.
Niaku va ve, niaku va vunda na tud. Miela fadi taita, niaku lara nenu, miela kupa kupaka. Ni umbala iraiten, miela saru tandruka. Zaiku saraiteni, miela tin, miela fundo.
C'est donc un kabar à la sauce de la compagnie, parce qu'en principe, le kabar n'est pas chanté. C'est tout un protocole qui fait commencer toute cérémonie. Il y a des kabars pour les grandes réceptions, il y a des kabars pour les deuils, pour les mariages, pour les fiançailles, etc. Et ça, c'est juste l'intro de tout kabar.
Honorables dames et messieurs, respectable parentèle, proches, demi-proches, proches lointains, amis, camarades, copains, fidèles et infidèles, aînés, cadets et benjamins...
Abrège !
J'en ai oublié ?
Ah, continue !
En fait, c'est... voilà, nous n'avons pas le droit de parler, mais comme on nous a donné la parole, nous allons assumer.
Quand les poules s'apprêtent à pondre... Elles caquettent. Quand les coqs vont cocoricoré, ils battent des ailes.
Bon, continue.
Quand le zébu va beugler, il agite d'abord ses cornes. Et nous qui allons parler, pour vous donner le plaisir d'être accueillants, nous enlevons le tsini et le founjou.
Il veut dire mille excuses confondantes.
Et savez-vous pourquoi? Tout reproche et blâme sont lourds à porter. Insupportable pour nos anciens, et donc insupportable pour nous, dignes descendants du pays des Austronésiens, et donc nous enlevons le tigne.
Mille excuses confondantes.
Car si le faucon est le maître de la danse, les aînés sont les maîtres des paroles. Nous, nous ne sommes cependant ni aînés, ni parents, ni sages.
Pour terminer donc aussi ainsi sur ce...
Misoch la tupko, mankasi la tupko, mankatel la dembola, tupko.
Le public qui s'est constitué là autour de vous. Qui est ce public spontané, Christiane?
Bah, en fait, ce sont les enfants des écoles environnantes. Et puis, il y a là une dame qui passe, qui doit être une habitante du quartier. Et puis, apparemment, ils sont souriants et tout. J'aime bien cette atmosphère-là.
On voit dans les villes parfois de grands amphithéâtres, mais les salles et les espaces pour jouer ne sont pourtant pas accessibles.
Bah, en fait, il faut payer pour ces amphis. Et je pense qu'en général, ceux qui aimeraient y aller n'ont pas assez d'argent ou de rentrée d'argent pour ça.
À quoi servent-ils maintenant?
Ils servent beaucoup aux églises, aux nouvelles églises.
Et le théâtre, alors?
Le théâtre, comme par exemple la compagnie Mingal, nous on fait là où on trouve et on adapte notre scénique par rapport à l'espace qui nous est offert ou à l'espace que nous avons pu trouver et qui est à notre portée.
Mes amis, la vie est belle malgré les peines qui nous enchaînent. Âme ardente, palpitante, pour servir son Dieu et sa patrie, nous saurons offrir notre vie. La vie est belle, belle toujours. Mes amis, la vie est belle, quand près du terme nos yeux se ferment, pour bagage du courage, pour servir sa vie et sa patrie. Nous saurons offrir notre vie, la vie belle, belle toujours. La vie est belle malgré la peine qui nous enchaîne, elle est toujours belle quand on peut résister. Oui.
Cette dame qui nous a donné une chanson est remontée par les escaliers juste derrière nous.
Oui, oui. Elle nous a entendus et du coup, elle avait envie aussi, elle, de dire quelque chose en chanson.
On se donne des chansons ici?
En fait, on peut se répondre en chanson, c'est possible. Enfin, pas comme une discussion, mais quand il y a des rassemblements de gens, il arrive que quelqu'un chante et puis ça fait chanter quelqu'un d'autre en cercle comme ça. Ça arrive souvent dans des réunions familiales, entre amis, c'est vrai.
Pankazu nirine yana, Akunju nuta diavina.
Kana sera nindu luwaza de tiavela tiakuri.
Farmati nzava nirin.
Zana mamba na telinje ni nikalani nikibu nitwerana.
Alo fe la fiat.
Vankazu nirini anau. Akunju nuta diavina. Kana sera nindu luwaza de tiavela tiakuri. Fara matinza vanirin zana mamba na telindeni nikalani nikibuni twerana.
C'est une déclaration d'amour dans le haïtien.
Il s'agit donc des haïtien, c'est une forme, on va dire, de poème traditionnel malgache. Et en principe, là, c'est un homme qui parle et qui est en train de déclarer son amour à une femme.
Que je meure, Ramatou. J'ai passé devant la maison de votre mari. Je l'ai salué. Il n'a pas répondu. Je lui ai demandé pardon. Il n'a rien dit. Que veut dire tout cela? N'ayez pas d'inquiétude. Je séparerai le jour d'avec la nuit. La nuit sera à lui. Le plein jour à vous.
Dans mes voyages dans l'île, j'ai découvert une sorte de poème. Je parlais déjà malgache à ce moment. Extrêmement intéressant, en ce sens que c'était des poèmes d'allure sentimentale ou, comme on dit, poétique, mais dont le sens et la portée étaient logiques en quelque sorte. C'était des poèmes qui servaient dans des disputes tout à fait pratiques entre un maître de maison, par exemple, et les ouvriers qui avaient travaillé pour lui. Il se récitait des poèmes pendant des 2, 3 heures, 5 heures d'horloge. Et à la fin, c'était celui qui avait trouvé les meilleurs proverbes qui l'emportait.
Jean Paulhan. Venu à Madagascar en 1907, il rencontre une rhétorique illusionniste, le Ain Teni. Il se confronte dès lors à la dure tâche de traduire ses duels poétiques. Jean Paulhan se passionne pour cet art de la parole et retranscrit ce que les gens disent d'une traite, sans que ses récitants n'aient d'image de la phrase écrite. Il fixe à l'oreille cette poésie époustouflante et nous offre quelques milliers de poèmes à charpente de proverbes. « Je suis un mauvais nuage, quand on l'arrête, il grêle. » Le Ain Teni, où l'art de manier la parole pertinente, parfois brûlante, glisse de sens d'un interlocuteur à un autre et maintient le goût de l'équivoque. Cet art populaire agace les missionnaires qui plaident pour la versification des cantiques, mais en vain, cette poésie vivante n'a d'autre considération morale que les liaisons de sens invisibles et leur effet soudain.
Ne m'aimez pas comme la porte. On l'aime. Cependant, on la repousse sans cesse. Aimez-moi comme un petit crabe. On mange jusqu'à ses pattes.
Andolao, la plus ancienne place publique de Tananarive, palier entre la haute ville et la ville basse.
Les couples viennent ici pour se promener un peu, pour montrer aussi leurs amours, leurs affections l'un de l'autre. Ici, on ne le dit pas, tout simplement, moi je t'aime, veux-tu sortir avec moi? Pour les jeunes. Surtout en Tananarivo, à l'époque du royaume, ils ont utilisé le haïtien. Je vous ai amené un livre concernant ce genre d'oralité malgache.
Qu'est-ce que vous aimez tant dans ces poésies?
Il y a tant de figures. Il y a des figures érotiques. Et à Madagascar, si vous voulez évoquer votre sentiment à une personne, il faut utiliser des figures rhétoriques. Parce que c'est ça la moralité dans notre pays. Il ne faut pas que vous disiez directement que vous avez envie de faire quoi que ce soit avec la personne à qui vous vous adressez. Mais il faut évoquer votre sentiment à travers les figures de style. Mais le haïtien, par exemple, on est libre. on n'est pas obligé de versifier nos poèmes.
Est-ce que je peux lire? C'est un livre de Eteni de François Rakoutenev. Je lirai un peu. Ftitsumtovi. L'an ftitamptamp que ça a tout flan. Katsrita tsruni lokandravak.
Ftim sumid kenenora zazavavka. Namismena kaza tom tskafun. Ari runun votamp kangaka. Vodirena futsun de itamatsatsu. J'espère qu'elle va me répondre.
Parce que les Nteni, ce sont un peu des joutes, hein, on se répond.
C'est un genre de joute verbale entre une fille et un garçon.
Aleoko peratra tonandrazako toy izay rojo ifampindramana ary aleoko apavarana toy izay voangy misarakisa dia fantatrao kosa izao andriamatoa fa fitizatra ny bodiny aho nefa ny anao tao miaka tsy hotokana tontsinainy aho fa ny anao vorovorokenaka maro sosina noho izany antony izany dia tongolo senondro sika ka tsy mba ho azo apraisina kiraro mavo somaina ka tsy azo atao indray mametaka.
Je ressens que la personne à qui je m'adresse ne va pas tout de suite accepter ma demande. Et elle a mis certaines conditions pour que notre relation soit possible. J'ai essayé d'être vantard et elle n'aime pas trop ça. Elle veut une relation sérieuse. Hein? Et ce que je dis tout à l'heure, ce ne sont tous que de la vantardise. Et c'est pour cette raison qu'elle n'a pas accepté ma demande.
On peut prendre les petits escaliers si vous n'avez pas peur de,
allez.
De trébucher.
Et donc les escaliers se redivisent en escaliers, c'est incroyable.
Mais ça aboutit
qui se
toujours quelque part.
De nouveau en escalier.
Si on regarde avec des jumelles ici, on verra toujours deux clochers. Il y a toujours une église protestante, une église catholique. Alors l'église protestante, c'est un héritage des Anglais, qui sont les premiers étrangers qui sont venus ici. Et après, quand les Français sont arrivés avec la colonisation, ils ont envoyé des jésuites et les catholiques. Mais par esprit d'équilibre, nous, ben, on met les deux. Voilà. Au temps des rois, il y a eu un roi qui a laissé entrer les étrangers à Tananarive. C'est le roi Radama Ier. Il a régné de 1810 à 1828. Et c'est à ce moment-là qu'on a ouvert Antananarive aux étrangers. Avant, c'était une cité interdite. À dire que les gens restaient à l'extérieur de cette porte. Et ce roi-là, qui avait vu la supériorité technologique des Occidentaux, il a laissé rentrer des étrangers. Mais ces étrangers-là, c'était des missionnaires.
Que n'a-t-il pas fait?
Des missionnaires, donc ils ont appris les gens des techniques pour fabriquer du savon, pour fabriquer des canons également. Mais en même temps, ces gens apportaient leur religion. Et la femme du roi Radama Ier, une fois que le roi Radama j'ai une hésitation pour le mot utilisé, parce que chez nous, c'est tabou de dire que le roi est mort. On dit qu'il se retourne. Donc quand le roi s'est retourné...
Est-ce que cette porte s'est refermée?
Oui, justement. C'est refermé, il n'a été ouvert qu'aux techniciens, aux gens qui ont porté quelque chose, mais pas aux missionnaires chrétiens. Et sa femme qui a régné après lui, Ranavalan Ier, avait pris conscience de ce que ça change. Et quand elle a été consciente de ça, que en fait, christianiser ses sujets, c'est le lui prendre également. Et là, elle s'est mise à dire... Non, non, je veux pas de ces chrétiens. Alors, je veux bien des ingénieurs, des enseignants, etc. Ils peuvent rester, qu'on appelait les Vasa, examinés par la reine. Mais les autres, il faut qu'ils s'en aillent. Et en même temps, donc, qu'elle a refoulé les étrangers, elle a interdit la religion chrétienne et persécuté vraiment les chrétiens qui continuaient à faire leurs prières. Et ces temples-là ont été construits là où on avait exécuté des chrétiens. Tous les temples autour du Rouvre, en fait, c'était des lieux d'exécution.
Parce que le Rouvre est dans notre dos, derrière l'enceinte.
Oui, on tourne autour du Rouvre, là. Oui, voilà.
Comment étaient-ils exécutés, ces chrétiens?
Alors, de différentes façons. Ici, on les sagayait. Là-bas, on les mettait dans des nattes. On les enroulait dans des nattes. Il y a un endroit, là, il y a un vrai précipice qui donne tout en bas de la ville. Et là, on demandait aux chrétiens, alors, vous allez continuer à prier? Et s'ils répondaient oui, on les entourait dedans, on le redemande encore. Et s'ils persistaient dans leur volonté de suivre la religion des étrangers, on les balançait. Et on appelait cet endroit là où on balance, le temple en Pamarine, là où on balance.
Nous arrivons vers Saint-Ouest et le soleil est toujours
ouais,
là.
Génial, ça réchauffe. Maintenant, c'est la première religion à Madagascar, la religion chrétienne. Presque à 80%, je pense.
Ce qui n'empêche pas les habitants de Madagascar, en tout cas un certain nombre, d'aimer certaines fêtes païennes. Est-ce que les anciens se manifestent de temps en temps?
Quand j'étais petit, j'entendais dans la famille des gens qui disaient « Ah, j'ai vu mon arrière-grand-père en rêve, je crois qu'il a froid ». Cet hiver, on va aller mettre des nouveaux linceuls. Hein, c'est un prétexte pour les anciens de dire économiser, on va faire tous la fête ensemble cet hiver. J'ai vu en songe tel ou tel ancêtre.
Devant nous, le palais du Rouvre, le même palais qui fut brûlé mystérieusement en 1995 et reconstruit à l'identique.
Alors, le palais, il y a eu une première construction pour la reine Ranava. La première, elle était moins imposante, mais de la même hauteur, mais sans les tours sur le côté. Et c'était une première construction en bois.
Claudia, étudiante en histoire.
Et par exemple, pour la petite histoire, il a fallu presque 10 000 hommes pour apporter ce bois de 30 mètres de haut, de la partie est de l'île, jusqu'ici sur les hauteurs. Après, il y a une deuxième construction. En fait, ils ont maintenu la partie en bois à l'intérieur, revêtue en pierre. Et c'est la partie externe en pierre que l'on peut voir maintenant. Et puis, la pierre qui a été utilisée, c'est du granit. Et par exemple, on a un proverbe malgache qui dit, c'est les gens de Tana qui ont de belles maisons, mais les gens des environs, ils sont chauves en étant jeunes, puisqu'ils ont été obligés et ils ont été forcés en tant qu'esclaves de transporter les meulons de granit sur leur tête. Et du haut de son balcon, la reine Ranava, la première, ici, avait une vue sur la maison de Jean Laborde, qui a construit pour elle et le palais, et qui a aménagé pour elle un petit pavillon que l'on peut voir d'ici, au milieu du lac Anous, ce qui fait que de son palais, elle pouvait voir et la maison de son amant, et le témoignage de son amour avec la forme en cœur du lac.
Formidable est en effet le nom qui convient à Jean Laborde. Il avait fait naufrage sur la côte malgache en 1831. Âgé de 26 ans et ne doutant de rien, il avait réussi à gagner sa Nanarive et à se faire recevoir par Sa Majesté Ranavalo Ier, à la cour de laquelle vivaient déjà trois Français, Robin, un ancien sergent, Le Gros, un charpentier qui a construit le palais de la Reine, et Monsieur de Lastel, sorte de majordome qui était aussi, je crois, colon. Eh bien, la reine Ranavalo, Sa Majesté, de caractère plutôt difficile, mais comme elle était prise de progrès, elle écoute volontiers les conseils des trois Français. C'est ainsi que, à Jean Laborde, dont la fière attitude l'avait impressionné, elle dit tout de suite, nous exigeons que vous fassiez vos preuves.
Pourriez-vous nous parler de cette légende, toutes ces légendes autour de cette reine qui était un peu présentée comme une mante religieuse et qui continue à faire couler de l'encre ici?
Il faut se remettre dans les conceptions européennes de l'époque, parce qu'il faut voir que beaucoup de choses que l'on dit sur Madagascar, c'est le regard européen. Et dans les conceptions de l'époque, une reine, c'était le sexe faible. Or, c'est pas vrai. Ranavan, et puis d'autres femmes officielles de Radam, ont mis l'une d'entre elles au pouvoir. Enfin, c'est les femmes qui ont pris le pouvoir. Là. Ce n'était pas une reine qui était sotte. Si vous voulez, ce qu'aurait fait Ranavan si les Anglais ne s'y étaient pas opposés, et s'il n'y avait pas eu ces problèmes avec l'Europe, c'était de faire un Meiji malgache avant le Japon. Le Meiji, c'est le moment où le Japon s'industrialise, se modernise. Elle comprenait bien ce qui se passait dans le monde, elle avait bien compris qu'il était nécessaire d'avoir une industrie. La Borde faisait des canons, faisait de la poutre, faisait des fusils. Ce qu'elle voulait, c'était être autonome. Par ailleurs, qu'elle ait été une fine stratège. Dans ce monde qui vivait de politique, elle ne sort pas, de Chénier dans la campagne de Guéret où il n'y a plus personne. Hein. Elle a su mettre fin au commerce avec les Européens, quand les Européens l'avaient attaqué sans raison, sans déclaration de guerre, sans rien. Et puis, ici, les conspirations, on les connaît toujours, que ce soit à cette époque-là ou que ce soit en 2015, on sait quand il y a une conspiration. Hein. Et elle l'a su, elle a fait quitter Madagascar tous les Blancs qui étaient là, qui avaient participé à la conspiration. Et quand la Borde est donc partie, il est venu dire adieu à la reine. Bon, il était sujet de la reine, il aurait dû être mis à mort. Bon, elle l'a exilé. Bon, il est venu lui dire adieu. Et on dit que sur la varangue, là-haut, sur son balcon, quand elle l'a vu partir, elle était là et qu'il y avait des larmes qui partaient.
Tananarive, des sauterelles gardent le tombeau. Un documentaire de Nejma Voikra et Je libère ici. Avec les voix d'Ombenitsoa Josoa Dibini, Christiane Ramanatsoa, Fela Razafiaritson, Voni Ranalari Manana, dit Ranala. Prise de son Jean-Marie Porcher. Au mixage, Olivier Dupré. Coordination, Catherine Libert. Nous remercions l'Office national du tourisme de Madagascar et l'Institut français.
Il paraît que l'on ne quitte jamais Antananarivo, Tana pour ceux qui sont loin, raconte l'écrivain Michel Rakotoson sur sa ville. Les voyages ville-monde ne nous quittent pas, même si loin nous serons à la rentrée, si l'aventure s'arrête. Éternité radiophonique, vous pouvez réécouter toutes nos escales, télécharger, podcaster sur le site internet franceculture.fr. Autre île-monde pour la prochaine escale, la belle île de l'océan Pacifique, Illa Formosa, comme les marins portugais l'appelaient, Formose, Taïwan. Taipei, ville-monde, samedi prochain 23 juillet à 19h sur France Culture. Bel été et théâtre dans quelques instants avec École d'acteurs.